Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, épisode consacré aux vilains garçons, aux sanguins, à ceux qui distribuent les insultes et les coups bas. De Bill Laimbeer à Draymond Green, on va faire le tour des plus grands bad boys de l'histoire de la NBA. Comme beaucoup de grandes équipes ont eu un grand méchant dans leur rang, on va s'interroger sur leur rôle et se demander si aujourd'hui, dans une NBA qui fait la chasse aux frasques, les bad boys sont voués à disparaître. Pour en débattre, trois journalistes sont venus en découdre. Alessandro Pizzus, salut Sandro.
Salut Gaëtan, salut à toutes et à tous.
Amaury Perdrio, bonjour Amaury.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Arnaud Lecomte, hello Arnaud.
Hello.
Tout le monde est prêt, début du game. Avant de nous plonger un peu dans l'histoire des grands méchants de la NBA, commençons, si vous le voulez bien, par la NBA d'aujourd'hui. Sandro, cette saison, on a un Draymond Green qui multiplie les vilains gestes, qui collectionne les expulsions. Est-ce qu'on peut dire que l'intérieur des Warriors incarne ce qu'est un bad boy aujourd'hui en 2024?
Aujourd'hui en 2024, c'est ce qui ressemble le plus à un bad boys des années 80-90. Tu l'as dit, c'est un joueur qui cette année a fait déjà plusieurs frasques, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs années. Cette année, donc, il a pris 5 matchs de suspension après une minute de jeu, après avoir étranglé Rudy Gobert pour des raisons dont on ignore un peu. Il l'a juste vu, il a pété un câble. 5 matchs de suspension, puis 2 semaines après, coup de poing sur Yusuf Nurkic sur une pauvre prise de position. Là, ça a été un peu plus sévère, parce que la NBA a sévi. 12 matchs d'abord de suspension, puis 4 matchs de réathlétisation pour se remettre dedans, et puis surtout 4 matchs de réathlétisation pour se remettre un peu la tête à l'endroit, pour ne pas recommencer. Et depuis, là, il se tient à peu près bien, on va dire.
Oui. Sauf quand il prend 2 techniques en l'espace de 15 secondes, je me démarque un peu du propos de Sandro. Certes, c'est ce qui se rapproche le plus des années 80-90, mais on y reviendra plus tard. C'est quand même un bad boy des temps modernes. Et tout ce qu'on voit est exacerbé par les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a aussi un travail de l'image et de la vidéo qu'on voit qui fait qu'on va définir aujourd'hui un bad boy comme étant quelqu'un qui râle tout le temps, qui pigne. Un Luka Doncic aujourd'hui pour être vu comme un bad boy parce qu'il collectionne les fautes techniques en match et qu'il y a toujours des bisbilles avec Devin Booker ou d'autres, mais on est quand même très très loin des gars qui chicanaient sur le terrain et qui pouvaient mettre vraiment des sales coups et qui avaient une seule visée, c'était de faire sortir l'adversaire de ses gonds. Là, Draymond Green, il fait plus, il se sort lui-même finalement plus que l'adversaire.
Oui, je voudrais rajouter un petit sur cet exposé un peu du bad boy. Qu'est-ce qu'est le bad boy? C'est une vraie question.
Posons les termes.
Là, pour le coup, moi, j'ai l'impression, enfin, Draymond Green, à mes yeux, c'est un bad boy de pacotille, un peu.
Ah, carrément.
Pour résumer ce que vient de dire Amaury, je pense qu'on parle un peu de la même chose. Parce que, évidemment, comparativement aux légendes de cette appellation-là, de l'appellation contrôlée depuis les Detroit Pistons de la fin des années 80, bon, Draymond Green, il n'arrive pas à la cheville des gens qu'on a vraiment auréolés de cette étiquette de bad boy, quoi. De Dennis Rodman à Bill Laimbeer, de Rick Mahorn à Ron Artest même. Il y a eu 20 ans de bad boy à leur meilleur. Et pour moi, ce qui fait la différence, là, on parle de Draymond Green aujourd'hui, effectivement, c'est lui qui peut-être se rapproche le plus de ces gens qui collectionnaient les techniques, qui collectionnaient les coups bas et qui sont un peu détestés de tout le monde. Je pense que la différence avec les vrais bad boys, les authentiques, si je puis dire, c'est en dehors du terrain. Or, en dehors du terrain, Draymond Green, alors à part de temps en temps balancer un coup de boule à Jordan Poole, mais aussi quelques mauvais coups dans son podcast, je ne vois pas grand-chose de très underground, de très différent, etc. Quoi. C'est vraiment pas à la hauteur de... Si c'est un rôle qu'il a décidé d'endosser, de jouer, c'est pas à la hauteur de la légende des vrais bad boys que furent tous les gens que j'ai cités tout à l'heure. Quoi.
D'accord. Donc on parle d'un joueur qui, son rôle disait, tenter d'étrangler un autre joueur, frapper un coéquipier en début de saison l'année dernière. Et là, vous me dites presque bad boy de pacotille, presque gentil.
J'ai presque envie de rappeler qu'il a écrasé la poitrine de Sabonis sans raison aussi en play-off l'année dernière, juste parce que voilà, il a juste bloqué la jambe, à peine. Donc non, je suis d'accord, c'est pas un bad boy des années 80-90, il aurait été gentillet, mais à notre époque, c'est quand même un sacré client. Il y en a pas deux comme lui en NBA aujourd'hui. Et donc,
Mais je pense que ça tient plus du fusible qu'ils font que du
que la stratégie.
Que du vice calculé. Et je pense que Arnaud et moi en discutait un peu avant le podcast. Je pense que cette notion de vice, c'est elle aussi qui vient s'accoler à la définition de bad boy. C'est le fait de faire des choses volontairement, de donner rendez-vous à une équipe pour la castagner. Et finalement, imaginez qu'un match va se dérouler du début à la fin sur une tonalité de la violence verbale et physique. Je pense que Draymond Green, il n'y a rien de calculé, mais au moment où ça arrive, effectivement, ça prend des proportions énormes. Peut-être aussi parce qu'il est un peu seul dans ce monde-là aujourd'hui. Mais il n'y a pas chez moi, en tout cas vis-à-vis de lui, cette notion de vice et d'intentionnalité calculée pour mettre son équipe sur des rails peut-être différents, mais des bons rails.
Je crois qu'il il pénalise son équipe davantage qu'autre chose. Oui. On a vu à quoi ressemblaient les Warriors en début de saison lorsqu'il a pété tous ses câbles dont on a parlé. Aujourd'hui, on voit à quoi ressemblent les Warriors maintenant qu'il sait apparemment racheter une petite conduite. on le sait, elle va être temporaire parce que c'est le genre de personnage qui répétera un câble très certainement. Mais aujourd'hui, les Warriors, bon, ils sont un peu en retard et j'ai bien peur qu'ils doivent se contenter d'une dixième place à la fin de la saison régulière, donc de jouer un play-in qui va être probablement compliqué contre les Lakers. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils jouent beaucoup mieux au basket. Ils ont retrouvé une partie de leur ADN défensif que Draymond Green, et là je reconnais la grande qualité de ce joueur, leur apporte énormément, quoi. Et c'est de grâce à cette stabilité depuis quelques matchs, alors ça va peut-être être que éphémère, hein, et on verra en play-in. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a bien compris que il n'était pas là pour, enfin, quand il pétait un câble, il n'était pas là du tout pour servir son équipe. Donc c'est en cela que je pense qu'il se différencie des bad boys que l'on j'imagine que l'on va évoquer un petit peu plus dans le détail. C'est que ces joueurs-là, à l'époque, ils servaient leur équipe, quoi. Notamment parce que, eh bien, ils savaient quand intervenir, ils ciblaient vraiment leur mauvais coup, si je puis dire.
Leur cible même.
Ouais, et aujourd'hui, c'est plus tout à fait... pour moi, Draymond Green, c'est pas la même catégorie, voilà.
Et effectivement, bah, allons-y, Arnaud, puisque tu commences à l'évoquer. Effectivement, il y a beaucoup de grandes équipes qui avaient en leur sein des bad boys, des mecs chargés un peu de faire le sale boulot. Tu as évoqué Rodman aux Bulls notamment. On peut penser, je sais pas, à Bruce Bowen aux Spurs, Ron Artest aux Lakers de la fin des années 2010 aussi. Sandro, Amaury, pourquoi c'était utile d'avoir un mec comme ça dans son équipe?
C'est calculé ou pas, mais en fait, c'est important d'avoir ce joueur. Moi, il y a une définition qu'on a collée d'ailleurs à Pat Beverley, j'entendais beaucoup de joueurs en parler. C'est le type de joueur qu'on a envie d'avoir avec soi et pas contre soi. Parce qu'on sait que, typiquement, un Beverley qui va dans les chaussettes du meneur adverse et qui va le haranguer toute la soirée, c'est clairement chiant pour un joueur, même de très grand talent, qui se retrouve face à peut-être quelqu'un dont il imagine qu'il n'a pas le quart de son talent, mais qui va l'empêcher de développer le jeu de son équipe. On parlait de Ron Artest, même déjà chez les Pacers, hein, c'était compliqué. Mais c'est quelqu'un qui, par définition, est destiné à rentrer dans la tête d'un, deux, trois joueurs, une équipe. Et une fois qu'il a réussi ce boulot-là, c'est la tonalité d'un match en fait, qui change dans son intégralité. Et on voit, dès que le bad boy, le vrai, se met en action, à dégoupiller son coup, à dégoupiller son trash talk, il y a quelque chose qui change dans le match. Enfin, en tout cas, moi, c'est la notion que j'en ai, même si je n'ai pas vécu les plus belles années des bad boys des 80-90.
C'est un peu une caution caractère, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, et notamment en play-off, tu as besoin un petit peu, quand ça devient un peu dur, quand notamment les joueurs qui ne sont pas forcément des leaders vocaux, et ça rejoint un peu le cas de Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, c'est des très bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs qui vont gueuler. Et c'est-à-dire qu'à un moment, tu as besoin de certains joueurs qui gueulent un peu ou qui mettent parfois un petit parpin de temps en temps sur un adversaire qui commence à être un peu chaud. Et ça, en fait, un bad boy, ça sert aussi à ça sur le parquet. C'est-à-dire qu'à un moment, quand son équipe est en difficulté, il va cibler un autre joueur, il va aller lui mettre une belle faute, une belle flagrante 1, pour pas non plus totalement dégoupiller, et faire sortir de ses gonds toute une équipe, et surtout le joueur en question.
Ouais, mais ça me paraît un peu, encore une fois... limité. Ça, ce sont des aboyeurs, ce sont des leaders vocaux, ce sont des... Toutes les équipes ont ce genre de joueurs.
Ouais, mais
les bad boys, c'est pas dans toutes les équipes. Voilà ce que je veux dire. C'est que Draymond Green, OK, effectivement, c'est un joueur, comme disait Amaury, ou comme tu le dis aussi, Sandro, c'est-à-dire quelqu'un qui va, à un moment donné, prendre les choses en main quand ça tourne mal dans une série de play-offs, qui va prendre la parole aussi en dehors du terrain par moment. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais un bad boy, quoi. Le bad boy, il faut qu'il y ait quand même aussi un côté...
violent.
Pas agressif. Seulement violent, agressif, en effet. Et puis surtout, sur le, en dehors du terrain, il a un comportement un peu... ça va vous choquer peut-être, mais un peu déviant, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il va pas réagir comme le joueur moyen, comme tout le monde, si je puis dire. Ce qui va limiter un peu la définition qu'on veut bien en donner, quoi. Parce qu'encore une fois, des Draymond Green, alors peut-être pas à ce niveau... parce que bon, la dynastie Warriors, sans Draymond Green, elle n'aurait probablement pas gagné autant qu'elle a pu gagner. Mais Draymond Green a un côté effectivement bad boy, au sens où c'est probablement le joueur le plus sale, ou un des plus sales de ces dernières années en NBA, puisqu'il y a aussi ce concept de dirty player, qui est encore autre chose. Mais il a du vice, il a ce côté harangueur, il a ce côté aboyeur qui va peut-être remettre son équipe dans le bon sens. Mais à côté de ça, je trouve qu'il manque un petit peu, à mes yeux, de dignité. Il n'est pas très respectable, quoi. Alors que Rodman, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et aussi dingue qu'il était, il est incroyablement respecté quand même aujourd'hui encore. Ça reste un joueur de légende. Est-ce que Draymond Green restera dans la légende comme Dennis Rodman ? Je ne suis pas sûr.
Moi, j'ai l'impression que ce qui manque pour pouvoir vraiment avoir la définition du bad boy, c'est aussi la rivalité entre les équipes et le niveau de rivalité entre certaines équipes.
Ça fait partie des choses qui ont évolué. Ouais,
voilà, et moi, quand tu vois les images des Chicago-Détroit, des Boston avec les McHale, même Larry Bird qui pouvait dégoupiller sur une toute petite faute, il y a un coup de coude qui partait, c'était bagarre générale. Et les deux bancs se levaient, puis il fallait séparer, etc. Je veux dire, c'est peut-être ce genre de séquence-là qui forge la légende d'un bad boy en devenir, ou en tout cas avéré, quoi.
Alors, allez-y, donnez-moi un exemple de... On a beaucoup parlé de Draymond Green, de ce qui lui manquait pour être a priori un vrai gros bad boy au sens où on l'entend. Donnez-moi un exemple, expliquez-moi pourquoi Dennis Rodman, par exemple, ou Ron Artest, était l'incarnation d'un vrai méchant de NBA.
Bah, faut remonter... Enfin, oui, Rodman, c'est presque déjà la fin, en fait, de la...
Et il était même bad boy des Pistons. Hein,
mais si tu veux, quand tu évoques Artest, pour moi, on est presque déjà trop tard. On est déjà dans la transition vers ce que Draymond Green est aujourd'hui.
Oui, mais c'était quand même un sacré fêlé.
Oui, voilà. Mais tu le dis, c'est un fêlé, mais c'est pas un bad boy dans le sens où quand tu prends les Détroit Chicago, quand ils allaient s'affronter, ils savaient quels étaient les trois mecs qui allaient se frapper dessus avant le match. Et il n'était même plus question de jouer un match de basket, en fait. Il était question de savoir qui allait frapper le premier et à quel moment ça allait partir en bagarre générale. Et donc, chacune de ces deux équipes-là avait les gars attitrés pour faire partir le truc en cacahuète, quoi. Donc, c'était ça. Moi, j'ai des images de Boston avec un Larry Bird qui est quand même une super méga star qui ça part.
Justement, ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est que, à la différence d'aujourd'hui, c'est que les bad boys, c'était aussi les poster boys. C'est-à-dire que les Reggie Miller, les Larry Bird et même les Jordan étaient des bad boys à leur manière. Aujourd'hui, vous allez prendre les superstars de la ligue.
Bon, même LeBron, c'est pas du tout un bad boy.
Bah, il y en a aucun. Il n'y en a aucun, en fait. On va aussi peut-être Ja Morant dans son genre, mais qui n'est pas... C'est pas un bad boy sur le terrain, c'est un bad boy en dehors.
Alors, je sais pas si c'est vraiment, si on peut le considérer comme une superstar, mais Jimmy Butler est un peu ce caractère, un petit peu bien.
Il s'est assagi quand même.
Un petit peu, mais peut-être qu'à une époque, il ressemblait un petit peu plus à un bad boy, on va dire.
Ouais, ça fait partie des joueurs effectivement qui ont un petit peu repris ce flambeau-là, mais avec un itinéraire de carrière qui est très particulier aussi chez lui, hein, chez Butler.
Alors allons-y, parlons de Bill Laimbeer, donc qui était l'intérieur emblématique des Pistons de la fin des années 80, début 90. Qu'est-ce qui fait que lui, c'était le bad boy par excellence ?
Parce qu'il n'avait pas forcément le physique, entre guillemets, de l'emploi. Quand je dis physique, pas son gabarit, mais il n'avait pas forcément... Bon, c'était pas quelqu'un qu'on voyait arriver de loin en se disant, lui, ça doit être une terreur. Il a forgé son personnage avec le temps, etc. Ce n'était pas un joueur incroyablement doué, mais c'était un... Voilà, il s'est retrouvé dans une équipe qui, effectivement, les bad boys se sont bien trouvés, d'une certaine manière, entre Dennis Rodman, Rick Mahorn, Bill Laimbeer, etc. Bon, et Isiah Thomas... qui là aussi est un exemple de poster boy qui devient bad boy, hein, finalement. Et Laimbeer est arrivé là-dedans, effectivement, avec cette capacité à faire péter les plombs, mais en allant très loin. Pour ceux qui n'ont jamais trop vu Bill Laimbeer, il était capable de cravater n'importe qui en plein vol. C'est des choses qui aujourd'hui ne seraient absolument plus permises, hein, justement, mais à l'époque...
Donc, il pouvait faire des goupillés les plus calmes. Hein. C'est même ça. Un Larry Bird qui était quand même un joueur plutôt calme, posé... dans plein de séries de play-offs face à Boston où il y avait une rivalité, là encore, très, 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 très forte, il pouvait faire dégoupiller vraiment n'importe qui.
Larry Bird était un calme, un faux calme, je pense. Était surtout quelqu'un, là aussi, ça fait partie du concept à mes yeux de Bad Boy, qui était un trash-talker terrible. Comme toutes les mégastars, hein, après tout. Hein, on parlait de Michael Jordan, on sait, un terrible trash-talker. On sait très bien aussi que des...
Tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a plein de trash-talkers. Mais ce n'est pas forcément des bad boys. Tu vois, Gary Payton est un trash talker, mais pour moi, ce n'est pas forcément un bad boy. On ne peut pas le mettre dans cette catégorie-là. Tout comme Larry Bird, on ne peut pas vraiment dire que c'est un bad boy. C'est un énorme trash talker, probablement.
Mais ça fait partie de la panoplie quand même.
Ah oui, ça fait partie de la panoplie, mais ce n'est pas des joueurs spécialement agressifs ou qui vont cravater à tout va un joueur sur une action.
Tout à fait. Il ne faut pas limiter le bad boy à la cravate.
Évidemment. Non, il y en a un autre dont on n'a pas parlé, qui était un sacré client, qui est un pivot de New York, qui était Charles Oakley. Là aussi, gros bad boy.
Le chêne.
Le chêne, comme on le surnomme. Parce qu'il était effectivement costaud comme jamais. Il pouvait mettre une mandale à un adversaire l'échauffement.
Les Knicks de cette époque, il y en avait trois quasiment dans cinq majeurs, même s'il y en a un qui était sixième homme. C'est John Starks, qui était chargé notamment de défendre sur Jordan à l'époque, ou Reggie Miller. Charles Oakley, bien sûr. Et Anthony Mason, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est décédé d'ailleurs. Anthony Mason était le sixième homme attitré des Knicks et c'était l'homme chargé des basses besognes. Alors, c'était un énorme rebondeur, c'était un très bon joueur, hein, soyons clairs. Là, on parle de vrais joueurs de basket hein, quand même, hein, c'est pas des...
Tous, hein.
Tous, oui. Et Mason avait effectivement comme mission de rentrer une fois que le 5 majeur avait commencé le travail, et puis il poursuivait son travail de sape avec Oakley, c'était assez terrible. Et il y avait la rivalité à l'époque, non seulement avec évidemment les grosses machines de l'Est, qui étaient les Pistons ou les Bulls, mais il y avait également les Pacers et Reggie Miller, qui pour le coup, là, en trash talker, était probablement le number one ou pas loin quoi, à cette époque-là, et qui pourtant ne ressemblait, avait vraiment. Pas du tout le physique de l'emploi, pour le coup, qui était une brindille, qui était un shooter, essentiellement. Essentiellement, c'était un très grand joueur. Hein. Mais c'était quand même sa marque de fabrique, c'était le shoot extérieur. On n'imaginait pas en bad boy. Mais il a un côté bad boy aussi, Reggie Miller. Terrible trash talker. Rappelez-vous des... Enfin, vous vous souvenez peut-être plus, mais il y a eu des passes d'armes terribles au Madison Square Garden avec Spike Lee, etc., sur une fameuse série en 94, une finale de conférence. Donc ça, ce sont des gens qu'on n'imaginait pas forcément dans cet emploi-là, mais c'était très courant à l'époque.
À vous écouter, les années 80-90 dessinent un peu un âge d'or hein, des bad boys. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, la NBA permettait l'émergence de tous ces joueurs, de tous ces vilains? Comment l'expliquer?
La réglementation, déjà, pour commencer. Si tu fais un comparatif avec aujourd'hui, on a tellement, comme tu disais, on a réglementé, ce qui fait qu'aujourd'hui, un joueur qui quitterait sa zone de banc, c'est la suspension automatique et on a tendance à protéger ça au maximum. À l'époque, tu déclenchais une bagarre, invasion du terrain, le match se terminait. On terminait le match derrière. Les arcades pouvaient être en sens, il n'y a pas de souci. On nettoie tout ça, on finit le match. Ça a quand même aussi évidemment écorné l'image de la NBA à travers le temps, parce qu'il a fallu lisser tout ça, il a fallu montrer que le basket c'était aussi du beau jeu. Mais je pense que dans les années 80-90, dès qu'il y avait une séquence liée aux bad boys, on laissait faire, on sanctionnait après coup, mais on laissait faire et c'était une manière aussi d'exacerber la virilité de ce milieu-là. Je ne vois pas d'autre explication déjà de base que celle du règlement de la NBA qui permet aujourd'hui beaucoup moins ce genre de débordement.
Si Laimbeer faisait 10% de ce qu'il faisait à l'époque, il ne mettrait même pas le pied sur un parquet. Il mettrait le pied une fois sur un parquet au premier match de la saison et il serait exclu jusqu'à la fin, en fait. C'est aussi simple que ça. À l'époque, on était beaucoup plus permissifs. Hein. Des fois, ça finissait, comme tu dis, en bagarre générale. Il n'y avait pas d'expulsion. Hein. Tout le monde revenait après 5 minutes de pause et ça continuait à jouer.
Moi, je dirais que c'était aussi, alors c'est peut-être un peu tarabiscoté, mais que c'était aussi le moment où la NBA décolle à l'international. Alors, il fallait produire des images irréelles de dunk invraisemblable, de panier à 3 points à 12 mètres, etc. Mais il fallait aussi qu'il y ait des personnages, raconter des histoires. Il y avait, et tu l'as dit tout à l'heure Gaëtan, il y avait des rivalités. Les rivalités, elles étaient extrêmement exacerbées à à ce moment-là, pourquoi ? Parce que les superstars restaient quasiment leur carrière entière dans leur franchise. Donc, on pouvait créer au fil des années des super rivalités, notamment à l'Est. On sait bien qu'il y en a eu beaucoup, on en a cité déjà. À l'Ouest, c'était un peu pareil quand même. Et aujourd'hui, vous regardez un peu les superstars de la Ligue. Pour la plupart, ils font deux, trois, quatre franchises. LeBron James, il en est à 3. Kevin Durant, 4. Kyrie Irving, 4. On a aujourd'hui, effectivement, un petit peu moins identifié les franchises par leur rivalité. C'est probablement regrettable parce que ça a en effet enlevé une part de sel à tout ça. Et d'ailleurs, il y a 2 mois, il y a eu un All-Star Game qualifié par tous de mascarade. Beaucoup de gens s'élèvent pour dire aujourd'hui, le seul moyen de redonner un peu de sens à ce All-Star Game, c'est de recréer des rivalités. Oui, c'est bien gentil, mais on va faire comment ?
Tu vois, même quand on crée une comme Cleveland contre Golden State, où il y a eu plusieurs finales de suite, tu vois, il y avait une rivalité, mais ça ne prenait pas cette proportion-là, peut-être parce que aussi, il n'y a pas les joueurs qu'il faut. Il n'y a pas les caractères qu'il faut. D'ailleurs, il y avait Draymond Green déjà à l'époque qui était un peu seul.
Les caractères ont été un petit peu...
Lissés.
Oui, lissés, édulcorés par les règlements notamment. Et puis aujourd'hui, on est dans du marketing pur. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas évidemment les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le portable, etc. Mais on avait... aujourd'hui, on a la culture du highlight. Et la culture du highlight sur les téléphones, il faut consommer à grande échelle. Surtout pas d'images de baston, d'images de violence, etc. On est sur, encore une fois, la culture du beau geste. Et aujourd'hui, on a cette chance incroyable d'avoir des joueurs qui en font toujours plus, qui battent des records en permanence de points, de séries de points, etc., de tirs à 3 points, de tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on cultive de plus en plus. Et je pense que ça contribue probablement à lisser, comme tu disais, Sandro, l'image générale des joueurs.
Tu cherchais éventuellement un tournant, Gaëtan. Je voudrais quand même rappeler le 19 novembre 2004, le fameux Malice at the Palace. Donc Détroit, le fameux Détroit Indiana, la bagarre générale, mais qui déborde jusqu'en fait dans les tribunes. Et je pense qu'à ce moment-là, quand tu te retrouves à suspendre donc Arthès pour le restant de la saison, c'est des matchs de suspension qui s'empilent et ces images, des fans en train de se bagarrer avec les joueurs. Je pense que David Stern à ce moment-là dit stop, on va pas plus loin. Il faut lisser cette image et devenir bankable à l'extérieur. Et donc rien que ça, c'est plus possible.
Puis aujourd'hui, tu peux plus. Tu fais un geste de trop, tu prends déjà 10 matchs de suspension, tu prends 5 matchs de suspension. Ça rapporte plus. Mais en fait, pour un joueur, être un espèce de Draymond Green quoi, ou encore un Bill Laimbeer, aujourd'hui, ça serait juste impossible. Il serait constamment suspendu. Quoi. Donc en fait, c'est plus possible aujourd'hui.
Et c'est souhaitable ? Alors évidemment, sans aller dans les...
Oui.
Non, mais je veux dire sans aller... Évidemment que Malice at the Palace était une horreur, que ça allait beaucoup trop loin et que personne ne veut voir ça. Mais est-ce qu'à trop lisser cette NBA, sans souhaiter des bagarres, mais est-ce que ça manque pas un peu de sel, un peu de méchant, un peu de personnage ?
Sur le terrain, oui. Après, je pense pas qu'on puisse réautoriser des bagarres générales, c'est pas souhaitable. Mais est-ce qu'il faut moduler sur le niveau et la fréquence des sanctions sur des grosses fautes ou pas ? Le problème, c'est que ça peut aussi partir en live très très vite.
Il nous faut un nouveau roadmap.
Non, mais aujourd'hui, on met une faute technique si on reste accroché trop longtemps après un dunk ou si on regarde mal, parce qu'on n'est pas allé trop loin aussi dans le lissage.
Moi, je trouve que c'est pas souhaitable, hein, personnellement. Enfin, faut pas que ça atteigne des.
Mais il faut surtout.
Comme Malice at the Palace,
Que c'est lié aussi au jeu. Et aujourd'hui, le jeu, on n'a plus le droit de toucher un joueur. Les attaquants sont archi protégés. Je pense que ça aussi entretient quelque part le fait que le jeu est lisse, quoi. Parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de spécialistes, de chiens de garde, j'exagère un peu parce qu'il y en a toujours quand même, c'est pas fini. Il y a.
C'est un petit peu ça, c'est des chiens de garde, mais on les tient en laisse, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est
qu'on leur laisse un peu de. Et hop, on retient la laisse dès que ça déborde un petit peu. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop où est cette limite. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter aujourd'hui des choses sur les règles ? Enfin, changer un peu quelques règles. C'est à l'étude, je crois, parce que l'inflation des points devient un peu caricaturale ou ridicule, comme vous voudrez. Donc peut-être qu'il y a cette volonté de retrouver... Et je pense que c'est fait de cycle, hein, comme beaucoup de choses, et qu'à un moment donné, on reviendra à des critères défensifs un peu plus intéressants, et peut-être qu'on retrouvera en effet les chiens de garde, etc., et de nouveaux bad boys d'une autre époque.
Laissons les joueurs ne pas s'apprécier, en fait. Il y en a certains qui ne s'aiment pas, et des fois, ils l'expriment sur le parquet. Laissons-les s'exprimer un peu. Ça arrive des fois, par exemple, Doncic avec Booker, on sait qu'ils s'apprécient très moyennement. Des fois, ils échangent juste un regard, les arbitres mettent direct une faute technique, alors qu'ils n'ont même pas encore parlé. Mais laissons-les un petit peu. Enfin, ça fait partie aussi du sel du basket, ce truc de « je t'aime pas, je le montre ». Voilà. Mais laissons-les un petit peu s'exprimer. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, c'est tellement lissé qu'on a un peu de mal à s'attacher un peu ou à voir un match comme un énorme événement parce que ça va être un gros match, mais ça peut aussi être un peu chaud. Et le basket, c'est ça aussi. C'est pour ça aussi que c'est beau, comme tout le sport. Il faut que ça soit un peu, des fois, il faut que ça soit un peu chaud.
Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai bien peur que ce soit un vœu pieux.
Ouais, je sais.
C'est tous copains aujourd'hui.
Les réseaux sociaux. On a lissé la saison régulière, on a rendu les matchs de saison régulière sont vus aujourd'hui comme des spectacles offert aux fans. Donc finalement, on a des joueurs qui sont des représentants de spectacle. La NBA n'a aucun intérêt à ce moment-là qu'il y ait des débordements. Peut-être que pendant les playoffs, on mériterait à ce que ça soit un peu plus tendu. Ça l'est, je pense. C'est un peu plus tendu, c'est un peu plus accroché. Il n'y a pas de débordement. Mais on a aussi enlevé un peu ce qui fait le sel de la saison régulière.
On parle plus des contrats aujourd'hui, ou encore une fois des records de points, etc., que des accrochages, que des tensions entre franchises, entre joueurs, etc., ou entre coachs aussi, parce qu'à une époque, il y avait aussi des tensions entre les coachs. J'ai bien peur que ce soit le signe d'une époque. Alors, pour revenir, je pense que... On peut espérer à un moment donné revenir à des basiques défensives qui pourraient refaire surgir des choses, ou faire ressurgir des choses plus précisément, mais je ne suis pas certain du tout qu'on retrouvera un peu cette ambiance de l'époque des années 80. Alors si c'est pour finir comme The Brawl, Malice at the Palace, tant mieux. Mais bon, on n'est pas non plus obligé d'arriver à ces extrémités. On peut trouver un juste milieu à mon sens. Voilà.
Non, mais quand tu disais tous copains, je pense que justement, ils ne sont pas tous copains, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le dire, en fait, parce que sinon, bah justement, il y aura sanction.
Messieurs, pour finir ce beau débat, je voudrais que chacun de vous, chacun votre tour, vous preniez quelques secondes pour me dire un peu le grand méchant NBA qui vous a le plus marqué et pourquoi. Allez, vas-y, Sandro, garde la main, dis-nous un bad boy qui t'a marqué et pourquoi.
Kevin Garnett. Parce qu'il était vraiment très méchant, on va dire verbalement extrêmement méchant. Il pouvait être vexant, enfin, il pouvait faire sortir de ses gonds n'importe qui. Hein.
C'était un joueur incroyablement intense sur le terrain, peut-être l'un aussi, des plus intenses de tous les temps. Ouais.
Intense, alors ce n'est pas forcément le mec qui allait mettre des mauvais coups constamment, mais il était capable. Et ce qui était assez fou, c'est qu'il pouvait... surtout lui, c'est un bad boy, mais au niveau verbal... où il a fait craquer absolument tout le monde. Hein. Il a même un jour parlé... En gros, il a parlé de la femme de Carmelo Anthony à Carmelo Anthony en plein match, ce qui a fait complètement dégoupiller Carmelo, qu'il a attendu à l'extérieur du stade pour régler ses comptes avec lui. Bah, Kevin Garnett n'est jamais venu, évidemment, mais c'est pour ça que je trouvais que Kevin Garnett était un très, très bon client à ce niveau-là. Et puis, comme tu dis, Arnaud, extrêmement intense, évidemment, ailier fort, surdimensionné, qui était capable aussi, sur des rebonds, de manière très vicelarde, de mettre des gros coups de coude qui passaient souvent inaperçus.
Amaury, tu étais en train de checker une info sur ton ordi et là, tu vas nous sortir un nom que personne n'attend.
Alors, tu sais, moi, je suis un adepte du contre-pied. En fait, je vais citer un gentil bad boy, mais en fait, ce n'est pas un gentil bad boy. C'est quelqu'un que nous, on a vu comme gentil et drôle. Mais je pense que sur un terrain, ça ne devait pas être drôle de jouer, c'était Shaquille O'Neal. Parce qu'en fait, je pense que c'est un joueur qui savait qu'il était inarrêtable. Personne ne pouvait rivaliser avec son poids, sa taille et son talent. Et il en a usé, d'ailleurs même à l'époque de la NCAA. Et déjà, il a son actif quelques bagarres aussi, hein, dont une avec Charles Barkley, il me semble. Mais si tu veux, Shaquille O'Neal, il me fascinait parce qu'il essayait aux yeux du grand public de faire tourner ces scènes-là en dérision totale. Il se voulait drôle, mais je pense que quand c'était face à face avec lui, c'était tout sauf drôle. Et voilà, je pense qu'il était capable de dégoupiller aussi par moments. Et pour sauver la face, voilà, devant les caméras, tout se passait bien. Mais derrière, je ne suis pas sûr que c'était tout rose.
Contre-pied total, effectivement, on ne s'y attendait pas.
Oh, c'est un bad boy, quand même. Arnaud, c'est un peu bad boy, O'Neill, quand même.
Tout à fait.
Non.
Arnaud, est-ce que à qui tu penses, toi?
Alors, je l'ai cité à plusieurs reprises. En l'occurrence, Dennis Rodman, qui, je pense, est la quintessence du bad boy. Mais alors, ça va au-delà du bad boy. C'est-à-dire que c'est un type qui, comme vous le savez, a collectionné les frasques aussi bien sur le terrain. Il a quand même mis un coup de boule à un arbitre. Il a quand même fracassé un caméraman télé en plein match. Bref, il a collectionné les frasques. Alors qu'au départ, c'était un type extrêmement introverti. Bon, il est devenu complètement underground après. Bon, c'était une rockstar quoi sur la fin avec les Bulls, enfin sur la deuxième partie de sa carrière la plus riche avec les Bulls. Pour moi, c'est un être vivant hors du commun dans un monde qui était a priori truffé de ce genre de personnage, mais en fait lui il était hors norme complet quoi, c'est-à-dire il a été au-delà de tout. Il partait après les matchs en pleine finale, il partait à Las Vegas jouer au casino entre deux matchs. Il arrivait certains matins à l'entraînement des Bulls en pleine série de finale, il n'avait pas dormi de la nuit. Pour moi, c'est ça, c'est le gars destroy, c'est le punk absolu de la NBA. Je pense qu'on retrouvera probablement, malheureusement, jamais un personnage comme ça, mais c'est vraiment la quintessence totale.
On va terminer sur ces mots, sur le punk absolu de la NBA. Donc, Dennis Rodman, merci pour ce débat, messieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur le site L'Équipe, ainsi que sur toutes les plateformes. Merci à Léa Léostic, à la réalisation. Très bonne journée, très bonne écoute et à très bientôt. Ciao.